Moi, je vais vous parler de Roland et de la musique. Mais comme j'ai encore 2 minutes d'avance, je vais dire que Joseph Alterac n'a pas complètement bien raconté l'histoire des scorpions, parce que moi, je le lisais dans Le Provençal, hein, parce que ça paraissait 3 cases par 3 cases dans Le Quotidien aussi, Guy Leclerc. Et je me rappelle des 3 cases, effectivement, de temps en temps, je les ai miquées, mais on n'avait pas le droit de l'avoir à la maison, c'est chez les copains. Et je me rappelle de ces 3 cases où on voit le docteur qui se penche sur un homme qui a l'air blessé, et les autres demandent alors, est-ce qu'il est mort? Et le médecin répond, un de ses cœurs s'est arrêté, mais les 2 autres battent encore. Voilà, et donc c'était un scorpion dissimulé, bien sûr.
Le scorpion peut aussi prendre la forme d'un robot.
Oui. Voilà. Bon, alors, pour ce qui est la première rencontre, moi, je la dois à Éric Vial. Éric Vial, historien, grand connaisseur de la science-fiction et de l'Uchronie en particulier, spécialiste de l'Italie dans sa vie professionnelle, et, enfin, l'Italie, de l'immigration antifasciste italienne entre les deux guerres, grosso modo. Et bien sûr, qui avait rencontré Roland quand ils avaient tous les deux 14 ans, ou non, Roland 14 et lui 16 peut-être, en tout cas, voilà, plus tard, en 1979, Éric m'a présenté Roland. Bon, Éric et moi, on vivait dans la même résidence universitaire à l'époque, disons, et donc on se voyait souvent, et donc Éric avait eu l'idée que, vu nos goûts musicaux, on devrait bien s'entendre. Nos goûts musicaux ne sont pas exactement les mêmes, je vais essayer de préciser ça avec, ben, ça va être un peu Rock'n'Roll 101, hein, mais bon... le cours de base sur le rock'n'roll, parce que je sens qu'il y a des gens qui n'ont pas les prérequis, donc on va le faire. mais quoi qu'on n'ait pas exactement les mêmes goûts en matière de rock, et on a continué de ne pas avoir les mêmes goûts, on a des tas de choses qui nous intéressent à tous les deux, ou qui nous intéressaient à tous les deux, devrais-je dire, et Roland aussi, en rock comme en SF, était capable d'aller écouter tout un tas d'autres choses que ce qui était son goût principal, hein. Et je pense qu'il écoutait même de temps en temps du progressif planant comme toi, Jean-Marc.
Non, 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 non.
Pas beaucoup, je pense, pas beaucoup, effectivement. Mais il était au courant, d'un nombre de trucs étonnants. Hein.
J'ai une petite anecdote à ce sujet-là, si je peux t'interrompre.
Vas-y.
C'est que je dois à Roland la découverte du genre de musique rock que j'affectionne le plus. Alors que, comme je disais au début, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Mais justement, durant les 15 jours que j'ai passé chez lui, il m'a passé une cassette en me disant « Tiens, ce truc-là, ça devrait te plaire. » Et c'était une cassette des Fields of the Nephilim, qui est la base du rock gothique. Et moi, je suis un grand fan de rock gothique. Je ne connaissais pas à l'époque le rock gothique. Et je dis « Bah ouais, effectivement, c'est pas mal. T'écoutes ça, toi, Roland ?» Il me dit « Bah non, mais enfin bon, on m'a passé ça. Je me suis dit « Tiens, ça pourrait te plaire. » Donc, je te l'ai gardé. « Tiens, je te la donne. » Et il m'a donné donc une cassette des Fields of the Nephilim, c'était donc en 88 que j'ai passé donc ces 15 jours chez lui. Et bah, grâce à lui, j'ai découvert cette musique-là, qui après un chant que j'ai abondamment élargi, alors que lui n'écoutait pas du tout. Donc une preuve de plus qu'il avait quand même aussi l'écoute des autres, et que même si on n'était pas du tout d'accord au point de vue musical, il savait ce que j'aimais et il était même capable de trouver pour moi quelque chose dont il savait que j'aurais pu aimer. C'était quand même très fort.
Mais j'ai les mêmes expériences avec lui et je précise que mon image des goûts de Jean-Marc remonte aussi il y a très longtemps, avant 1980, et donc ils ont souvent changé et évolué depuis. voilà, alors à l'époque, bien sûr, j'ai connu le Roland cheveux courts, blouson de cuir que vous avez vu. Hein. Il n'y avait pas encore les t-shirts tie-dye à l'époque. Je pense pas, en tout cas, je n'ai pas de souvenir des t-shirts tie-dye de l'époque, et qui était plutôt dans le punk. Hein, mais le punk, attention, pas le punk des Sex Pistols 77, non, lui, il connaissait les choses, et donc c'était plutôt les Stooges et les choses encore plus anciennes que ça. Enfin, plus ancienne, ouais. Et c'est-à-dire le rock que tu as appelé Garage 60s, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, c'est-à-dire tout un tas de groupes américains qui ont surgi entre 65 et 69, disons, hein, pour ce qui est des dates, qui étaient inspirés par des groupes comme les Rolling Stones, les Yardbirds, les Who, des choses comme ça, des groupes anglais qui reprenaient la musique américaine, mais à leur manière, et qui essayait de refaire ça, et qu'on appelait groupe de garage, pas parce qu'ils faisaient des disques dans le garage, mais qui répétaient dans le garage de leurs parents, hein. C'est-à-dire la pièce de la maison où ils avaient la place de mettre les guitares et les amplis, et on les laissait faire, on fermait la porte bien fort. Bon. Et certains d'entre eux, bien sûr, ont fini par faire des disques, souvent pas très diffusés. Et le premier regard en arrière et diffusion un peu plus large de ce genre de choses, c'était une anthologie faite en 1972 par Lenny Kaye. Alors Lenny Kaye, à l'époque, était plutôt critique et fan de rock. Il est devenu beaucoup plus connu comme guitariste de Patti Smith, hein, qui s'appelait Nuggets, Original Artifacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968. Et donc des chansons comme ça, relativement courtes par rapport à ce qui se faisait en 72, pas de longs solos, des ambiances un peu primitives et parfois un petit peu inquiétantes. Et on va peut-être s'écouter un morceau emblématique qui commence la... Enfin, un extrait, hein, le morceau emblématique qui commence la compilation, qui s'appelle « I had too much to dream last night ». Total, c'est un morceau qui a beaucoup cité. Ready to face the light, c'est la gueule de bois psychédélique. Hein. Dans une de ses nouvelles, il traduit le titre comme « J'avais trop à rêver la nuit dernière », ce qui est un faux sens. Hein. Ça veut dire plutôt « J'ai trop pris de rêve hier soir, hein, j'ai trop consommé de rêve. Hein. »« I had too much to dream », c'est vraiment le rêve, je l'ai pris comme ça. Hein. Et c'était les Electric Prunes qui ont fait ce morceau, qui ont connu une petite carrière après commerciale. Ils n'étaient pas aussi obscurs que d'autres groupes références de Roland. Non, les Electric Prunes, ils ont fait 4 albums quand même. Même si à la fin, je crois qu'il n'y avait plus aucun musicien du line-up d'origine. Mais bon, un autre morceau, bon, il y a beaucoup de morceaux qui ne sont pas si psychédéliques que ça dans Nuggets. Mais un autre morceau qui est bien significatif, c'est Psychotic Reaction, réaction psychotique, hein, des Camp 5, qui est cité aussi par Roland, bien sûr. Et donc, psychédélique pour Roland, c'est pas le Jefferson Airplane, c'est pas le Grateful Dead, c'est pas la musique de la côte ouest, c'est pas, bien sûr, encore moins les groupes de progressive rock des années 70. C'est ces groupes assez primitifs, qui savaient pas ce qu'ils faisaient, mais qu'ils faisaient, qui prenaient des drogues et qui les découvraient, qui étaient scotchés au mur, ou qui voyaient leurs copains qu'ils faisaient et qui s'inspiraient de leurs paroles, peut-être. Hein. Et des groupes, je dis, encore plus obscurs que ceux qui étaient dans Nuggets, parce que dans Nuggets, la compilation de Nick Cave, c'est des groupes qui ont... C'est plus ou moins les 45 tours qui ont tous connu un certain succès. Par la suite, à la fin des années 70, il y a des Australiens qui ont commencé à rassembler, donc des collectionneurs fous, qui ont commencé à rassembler tout un tas de chansons qui vraiment, souvent, ont sombré sans laisser une trace, hein, qui ont été produits localement dans des coins perdus des États-Unis. Et comme les pépites étaient passées, il ne restait plus que les cailloux. Hein. Et donc, cette série d'anthologies s'est appelée Pebbles. Il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu plus d'une dizaine d'albums dans la première série. Et puis maintenant, je ne sais pas combien ils en ont fait avec ce nom-là. Ils ont élargi le champ, etc. Mais disons que c'est les 10 premiers Pebbles qui sont vraiment la base de ce qu'on considère comme la musique de Roland, celle qui nous a cité abondamment, celle qui est la plus rolandienne. Hein. Le garage 60s psychédélique. Mais il écoutait beaucoup autre chose. Il écoutait d'abord, quand il avait trouvé des trucs du psychédélisme dans des groupes plus connus, il le faisait. Il le faisait chez les Rolling Stones ou d'autres groupes comme ça. Il aimait particulièrement les Pretty Things, qui est un groupe de la même origine que les Rolling Stones, de la même époque, mais qui eux sont tombés profondément dans le psychédélisme à la fin des années 60. Et donc on va s'écouter un tout petit bout de Pretty Things. Walking through my dreams at night. Le truc des paroles, c'est qu'il marche dans ses rêves, mais il n'est pas somnambule. Il ne dort pas. Il rêve, mais il ne dort pas. Voilà, donc un groupe nettement plus connu que l'Electric Prunes, quelque part, qui continue d'ailleurs. Je pense que les Pretty Things tournent toujours, plus ou moins. Ils sont vieux, hein, mais ça fait rien. Mais cela dit, Roland écoutait des choses, bien sûr, au-delà de ça. Il connaissait des choses au-delà de ça. C'était un fin connaisseur en punk rock yougoslave, par exemple. Ça, oui, mais c'est pas du tout une blague. La Yougoslavie, comme d'autres pays de l'Est, ils ne pouvaient pas tellement importer le disque. Et donc, il y avait une scène locale qui s'était développée. Et en Yougoslavie, un peu plus que dans d'autres pays, parce que c'était quand même un peu plus libre. Et il y avait d'excellents groupes comme Parnivaliak ou Elektrichni Orgasm ou Vis Roboti, ou des choses comme ça. Et que Roland connaissait grâce à son copain d'origine yougoslave, Michel Stancic, qui lui était apparemment un collectionneur de disques vraiment fou, beaucoup plus que Roland. Et qui était disquaire, d'accord, voilà. Je le connais pas, et il n'est pas venu aujourd'hui.
Non, c'est... il habite plus ici,
voilà.
Il a une seule cité aussi.
D'accord.
Et maintenant, il habite du côté de Nice.
C'est bien Stancic son nom, hein.
Michel Stancic.
Voilà. Et quand on m'a demandé de faire ce truc, j'ai dit c'est ce gars-là, Michel Stancic, que je ne connais pas, qui devrait le faire, parce qu'il est sûrement mieux placé que moi, mais bon. On m'a dit c'est toi qu'il faut que tu le fasses, alors je l'ai fait, hein. Et. Donc Roland, on parlait de musique, on parlait de tout. J'ai découvert donc Elektrichni Orgasm grâce à lui. Et puis, comme le dit Jean-Marc, Roland était capable de me montrer à moi des trucs qu'il savait que j'allais aimer et que j'avais raté. Alors prenons par exemple le Blue Oyster Cult. Alors le Blue Oyster Cult, c'est un groupe de hard rock plutôt, hein, donc c'est pas vraiment le truc centre évocation de Roland, mais c'est un groupe de hard rock qui écoutait un peu les intellos, qui écoutait les amateurs de SF parce que beaucoup de leurs paroles avaient des résonances fantastiques au SF, et qui était... Comment ? Moorcock a écrit pour eux plus tard, hein, plus tard. Justement, on va y venir. Moorcock a d'abord écrit pour Hawkwind. Bah, c'était plus proche de lui, ils étaient en Angleterre, ils se connaissaient. Je reviens au Blue Oyster Cult à leur début. Ils étaient très portés par un peu les mêmes critiques qui défendaient à la fois le punk rock garage des années 60 et de ce qu'on peut appeler les originateurs du punk, qui étaient les rockers de Detroit comme MC5 et les Stooges, et qui étaient des références pour le Blue Oyster Cult aussi. Mais Blue Oyster Cult avait un côté plus ce qu'on appellerait metal maintenant. À partir de 76, ils sont tombés dans un truc plus variétoche, je ne sais pas comment dire, enfin, beaucoup moins, voilà, pop. Ils se sont mis à gagner de l'argent et à faire des chansons nettement moins vigoureuses. Et donc en 79, ils ont sorti un album qui était vraiment nul, Mirrors, et je m'étais dit, dans le cult, c'est fini, ils ne font plus jamais rien de bon, je laisse tomber. Ils en ont sorti un autre ensuite, une magnifique couverture pleine de magnifiques dinosaures, et j'aime bien les dinosaures, mais je n'avais pas acheté. Et Roland un jour, Cultosaurus Erectus, ça s'appelait, hein, et Roland un jour se pointe chez moi, il me dit, tu sais, tu devrais écouter ça. Oh non, mais Blue Oyster Cult, c'est nul. Écoute ça. Parce que, bon, Roland, il avait. Excuse-moi, je devrais lire mes notes. Hein. Il avait bien sûr lui aussi écouté le Blue Oyster Cult, il avait fait des références au Blue Oyster Cult. Il y avait une chanson du premier album en particulier, qui est une chanson pas tellement bruyante, mais extrêmement mélancolique, qui s'appelle Then Came the Last Days of May, qui avait déjà été utilisé par Chris Villa, Les Derniers Jours de Mai, c'est le titre d'une de ses nouvelles, dans Banlieue Rouge, figurez-vous. Oui, j'ai retrouvé ça par hasard l'autre jour. Et Roland, bien sûr, avait titré un diptyque à lui, Les Derniers Jours de Mai, ce qui lui avait donné l'occasion de faire passer au nez à la barbe du fleuve noir le fait que Les Derniers Jours de Mai, les deux volumes allaient s'appeler Les Derniers Jours de Mai 1, puis 2, bien sûr. Hein. Et c'est toujours comme ça. Hein. Personne n'y avait vu que du feu. Mais Les Derniers Jours de Mai, c'est Then Came the Last Days of May, que peut-être on va écouter un petit peu. All dead. passe parce que ça me fait trop la chair de poule. Non, parce que l'histoire, c'est une histoire horrible de copains, qui est apparemment une histoire tirée d'une histoire vraie, de copains d'un des membres du groupe qui étaient allés à la frontière mexicaine avec plein d'argent liquide sur eux en se disant on va faire un deal de drogue très avantageux. Et puis ils ont été assassinés sur place par quelqu'un qui aura juste piqué le fric. Et la chanson raconte ça. Et le petit bout qu'on a écrit, qu'on a écouté, excusez-moi, c'est les autres sont morts et peut-être que j'aurais dû aller avec eux finalement. Mais bon, voilà, donc en 79, le Blue Oyster Cult était tombé bien bas. En 80, ils sortent un album, je ne fais pas attention. Roland, qui me connaît bien, qui sait que je suis un vieux amateur de hard rock et de Deep Purple, me dit écoute ça. Et ça s'appelle The Marshall Plan. Alors, Marshall Plan, mais sur le plan Marshall, mais Marshall, c'est aussi la marque d'amplificateur. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui s'est fait piquer sa copine par des rockers célèbres et qui décide qu'il va devenir meilleur qu'eux et qu'il va jouer comme ça. Voilà, bon, donc le genre de rock très, un peu pompier, là, un peu m'as-tu vu, point de vue guitare, qui me plaît bien, j'avoue. Et c'est pas trop la tasse de thé de Roland, mais il m'a eu, je me suis remis à écouter le Blue Oyster Cult, hein, total. Il m'avait... ça a été l'album suivant, ça, qui était très bon aussi, et après ils ont redécliné. Voilà. Ils ont remonté en 99 avec Heaven Forbid. Oui, qui est pas mal, mais Heaven Forbid, vraiment bien. Mais il faut dire aussi que c'est John Shirley, l'auteur de SF, qui leur a écrit toutes les paroles de Heaven Forbid. Alors que quand il était jeune, il était un fan du Blue Oyster Cult et il jouait avec un groupe qui s'inspirait de l'image, mais qui n'osait pas jouer les morceaux parce qu'il n'était pas assez bon. Bon, je vois que j'avance. On va passer à un autre exemple de truc que Roland m'a fait écouter à l'époque et qui m'a bien accroché parce qu'à l'époque, j'étais déprimé assez. J'avais l'impression d'être dans une voie sans issue. Et il m'a fait écouter un truc de New Wave. Alors, le New Wave, moi, j'écoute pas le New Wave, je n'écoute toujours pas. Voilà, lui non plus. Mais ça fait rien. Il m'a dit écoute ça, c'est The Sound, ça s'appelle I Can't Escape Myself. Il y a quelque chose quand même. Alors, ça, c'est tout à fait hein, le genre de truc que j'écoutais pas et que j'écoute pas. Lui non plus. Si, à l'occasion quand même, bien sûr. Hein. Si tu nous diras. Il y a quand même, tu vois, oui, il y a quand même quelque chose là-dedans auquel on ne s'attendait pas au début, puis ça, ce côté lancinant, et c'était très bien vu. J'étais pour donner des exemples de diversité dans les goûts de Roland, mais il y a sûrement beaucoup plus, et Sylvie peut nous en dire plus, et Michel aussi, je pense. Oui, bien sûr. Sylvie, tu as sûrement beaucoup plus d'exemples de diversité dans les goûts de Roland, en fait.
Je disais que sur Bouchard, il y a une liste faite par Ricardo Costello. Si vous cherchez, et il y a une liste, il y a une liste du jeu. Il s'est fait des playlists, et il y a une liste 70, il y a une liste 80, il y a une liste New Wave, il y a une liste rock, big bravo, etc. Donc c'est assez varié.
Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Et par exemple aussi, c'est lui qui m'a fait découvrir Os Mutantes, le groupe psychédélique brésilien excellent, qui ensuite, quelques années plus tard, a connu un retour de mode et est devenu beaucoup plus connu, mais à l'époque où on en a parlé, personne n'en parlait. Et faut souligner aussi que Brain Damage, il s'énervait quand on disait que Brain Damage était un groupe de garage 60s. Non, c'était pas un groupe de garage 60s, ça faisait autre chose. Lui aimait bien ça, mais ça faisait pas mal de choses différentes, Brain Damage. Donc, on va venir quand même un peu à la musique dans ses œuvres, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse beaucoup, je pense. Et donc, quand j'ai lu les premières œuvres de Roland, je me suis dit, oh là là, personne va arriver à lire ça, c'est trop truffé de références à une musique trop précise. si on n'aime pas ce genre de musique, on ne peut pas le lire. Moi, en fait, je me trompais complètement. Hein. C'est parce que moi, ces références résonnaient énormément en moi. Il faut dire qu'il y a quand même des exemples assez symptomatiques. Il y a une nouvelle qui s'appelle « À la saignée du coude » que vous trouverez dans « Musique de l'énergie », par exemple, le recueil de nouvelles dont on a vu passer la couverture, qui est entièrement rythmée par et qui suit un peu, qui essaie de trouver une interprétation et de faire une histoire à partir des paroles de Painted Black des Rolling Stones. On va peut-être sauter Painted Black parce que je parle beaucoup et que je ne suis pas vraiment en avance, voilà. Et on va passer au Serpent d'angoisse, son premier livre. Là aussi, quand j'ai lu, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est ce bouquin de rocker ? Bon, en fait, il n'y a pas tant de références que ça, mais il y a beaucoup de choses qui, quand on connaît le truc, quand on connaît le rock, interpellent et qui, par contre, passent inaperçues si on ne sait pas. Un des personnages principaux du Serpent d'angoisse s'appelle William Osterberg. Alors, quels sont ceux à qui le nom Osterberg évoque immédiatement quelque chose ? Quand même, je veux dire, c'est le nom d'Iggy Pop. Iggy Pop, son nom pour l'état civil, c'est James Osterberg. Et bien entendu, c'est pas un hasard s'il a choisi ce nom-là. À un moment même, d'ailleurs, le personnage qui s'appelle William se trouve baptisé curieusement James William Osterberg. Ce que, bien sûr, bon, James, c'est le vrai nom de Iggy Pop, il s'appelle James, c'est un prénom assez ordinaire. Et James William Osterberg, ça me fait penser, bien sûr, aussi à James Williamson, qui était le guitariste de la seconde line-up des Stooges, donc le groupe qui a rendu Iggy Pop célèbre. Et il y a une scène super rock quand même, hein, dans Le Serpent d'angoisse, quand même. C'est au milieu du livre, à page 70 et quelques, quand Ricky, bon, c'est un nom déjà assez rock, qui est un personnage qui vient de la ville libre de Detroit, se trouve dans la psychosphère, dans une image de Detroit dans la psychosphère, et il assiste à un concert des Stooges qui joue TVI. Allez, on va se faire un petit bout de TVI quand même, parce que ça aussi c'est automatique. C'est les Stooges en 70. TVI, c'est un morceau fondateur. Ça reste joué par des dizaines de groupes de garage, de punk, de hip punk. C'est à la fois un chef-d'œuvre du hard rock et du punk. Et c'est le riff de TVI qui a servi avec des modifications à faire à peu près tous les autres morceaux de l'album Funhouse, dont je ne sais pas. Paraît-il. Voilà. Bon, allez, assez de métal dans les oreilles. Les Stooges, bien sûr, c'est Detroit. C'est la musique des gens qui ont eu les oreilles cassées par les chaînes d'assemblage de voitures. C'est la ville emblématique de la classe ouvrière américaine dans les années 50. Detroit, c'est la ville de l'industrie automobile. Je ne sais pas, vous avez peut-être lu dans les journaux qu'en ce moment elle fait faillite parce que sa population a été divisée par 3. Hein. Dans les années 50, c'était la quatrième ville des États-Unis. C'était un truc très, très important. Et ça a été le berceau d'un certain style de rock'n'roll. D'abord, le truc qui a le plus succès commercial, c'est Motown, c'est-à-dire la musique noire vendue aux blancs. Les premiers qui ont réussi ça, qui ont fait beaucoup d'argent avec, les Supremes, les Temptations, la moitié du répertoire de Claude François vient de là, adapté en français, bien sûr. Hein. Et puis, à la fin des années 60, des groupes de rock blancs, et alors plutôt hargneux. Hein. Le premier, le plus connu d'entre eux, c'était le MC5. MC, c'est Motor City, la ville des voitures. MC5, ils étaient 5 dans le groupe, c'était donc les 5 de Motor City. Roland portait un magnifique t-shirt du MC5 sur une des photos que tu nous as fait passer. Et puis les disques Electra qui se sont intéressés à ça, ils faisaient surtout du folk. Ensuite, ils ont fait les Doors, qui étaient de Los Angeles. Ils se sont dit, où le rock ça marche, allons signer des gens de Detroit, et ils ont signé les Stooges. Et les Stooges, bien sûr, sont devenus un groupe fondateur pour Roland et pour beaucoup, beaucoup d'autres gens, hein, naturellement. Donc, on s'est écouté un exemple ici. Il y a un autre texte de Roland qui est rock à fond la caisse, et là, c'est le propos du texte, et c'est un peu plus tard, c'est un texte qu'il a écrit en 1997, qui est une suite, en fait, du Serpent d'angoisse, qui est une suite de son premier roman. C'est Musique de l'énergie, celui qui donne son titre au recueil, qui est paru dans Escale sur l'horizon au départ, je crois, hein. Et dans lequel Ricky, le même Ricky, se retrouve à la tête d'un groupe de rock. Et alors là, l'intrigue du truc est fondée sur l'évolution du rock. C'est une sorte de course, le rock'n'roll. Vous pouvez le lire si vous ne savez pas, vous apprenez plein de choses. Avec les années 50 un peu coincées, les années 60 où tout commence à exploser avec la drogue, le sexe et une attitude bien différente. Les années 70 qui sont une première décadence, mais où c'est encore supportable. Et puis les années 80 qui sont l'année de l'abomination, avec l'adversaire absolu de l'archétype incarné du rock, qui se présente sous les traits de Ronald Reagan, et qui est combattu dans la psychosphère par Ricky et son groupe. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin de ce texte, donc Roland écrit quand même plus de 10 ans après, je pense, je ne sais pas quelles évolutions ont connu les versions, mais je présume plus de 10 ans après ça pendant l'angoisse, le groupe de Ricky retourne aux racines. Il retourne aux racines, il se retrouve en Louisiane pour aller au fameux carrefour où Robert Johnson a rencontré le diable. Il ne dit jamais le nom de Robert Johnson, mais tout le monde comprend que c'est ça. Robert Johnson était un bluesman des années 30, qui a une stature mythique, et qui a été beaucoup repris par des gens comme Eric Clapton, par exemple. C'est pour ça qu'il y a une compil d'Eric Clapton qui s'appelle Crossroads. Dernier texte où Roland fait des tas de références, mais là, ça devient plus intéressant, en fait. Il prend du recul, il fait ses références de façon ironique. C'est Faire Part, son premier prix ironie en 83. Dans Faire Part, donc, c'est un personnage qui a perdu son ami, erre dans la ville, donc, et a différentes visions et différents flashbacks. Et en particulier, tout en vagabondant, il y a des chansons qui lui passent par la tête. Alors, on a d'abord une page avec 4 titres traduits en français, qui sont en fait 4 titres de chansons qui se trouvent toutes dans Nuggets. You're Gonna Miss Me, Psychotic Reaction, I Had Too Much to Dream Last Night, on a déjà parlé, et Baby Please Don't Go. Et puis le personnage tombe sur une bande de rock loops. Rock loops, ça c'est un mot de Roland, des loupards rockers, qui commencent à le menacer. Il leur dit: mais j'aime le rock. Et il dit: dis des noms de groupes que t'aimes pour voir. Et alors il leur cite les Electric Prunes, les Count Five, les Chocolate Watch Band, les 13 Floor Elevators. Ils ont dit: tu te fous de nous, quoi, on connaît aucun de ces groupes, bien sûr, hein. Attends, on connaît aucun de ces groupes. Évidemment, donc Roland, si tu veux, se moque un petit peu du jeu qui consiste à toujours paraître plus intelligent en écoutant un groupe que ton copain ne connaît pas. Parce que tu vois, c'est ça qu'il faut faire, bien sûr. Et puis, il le regarde, il dit: t'es trop défoncé. Tu vois, c'est même pas la peine de te casser la gueule, t'es trop défoncé. Et il s'en va en disant: et je suis sûr que vous ne connaissez pas non plus le Fifi Four Plus Two. Qui est infiniment plus obscur que les 4 suivants, mais qui a fait un morceau qui est encore plus emblématique de Roland Wagner que I Had Too Much Dream Last Night, qui s'appelle I Wanna Come Back From The World Of LSD. ça faisait rigoler Roland aussi, bien sûr. Alors, je crois qu'il faut passer au deuxième extrait pour entendre le Abna Comeback. On saute un peu, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout écouter. Ça me ferait plaisir de vous passer juste les morceaux, mais bon. Voilà. Abna Comeback. Il est coincé dans la psychosphère. Enfin, the world of LSD. Psychosphère, c'est le monde du LSD, c'est l'endroit où on entend les couleurs et où on voit les odeurs. Hein. C'est possible. Je veux revenir. Voilà, c'est la version originale de Je veux revenir. Ah oui, ça, le monde du LSD, c'est pas bon d'être coincé dans le monde du LSD. Hein. Mais bon, donc en même temps, Roland a toujours rigolé avec des titres comme ça. Hein. Il a toujours eu beaucoup de lucidité. Et sur ces histoires de références, il nous ressort le Fifi Four Plus Two dans Un ange s'est pendu, que j'ai oublié de prendre avec moi, mais qui est là. Excusez-moi. Et alors là, effectivement, il montre que déjà dans ce bouquin, qui est son deuxième publié au Flandre Anticipation, si je me souviens bien, donc c'est une œuvre du début aussi, que déjà il sait prendre du recul sur ces histoires de référence. Et il y a une discussion entre un journaliste rock qui roule un peu les mécaniques, là, qui se, comment dire, qui s'en croit un peu, qui est un petit peu suffisant hein, au niveau intellectuel, et puis un rockeur de banlieue, lui, qui est beaucoup plus hein, brut de décoffrage. Et donc le rockeur de base se plaint des références intellectuelles du journaliste. Richard lui dit « Et si je te dis, ah voilà Tom Back from the World of LSD, tu saisis l'allusion ?» Le rockeur répond « Évidemment, puisque je connais le morceau. Mais je me rends bien compte que la majorité des gens ignorent qu'un groupe nommé le Fae 54 Plus 2 a existé un jour et qu'il l'a interprété. » Et puis, il y a la copine journaliste qui est là, qui essaie de mettre d'accord, qui est une femme plus raisonnable, et qui dit « Ce ne sont pas tes références qu'il te reproche, mais l'usage que tu en fais. Pense un peu aux autres. » Donc, montre aussi que Roland... Savait mettre plein de détails, mais en même temps, savait bien que c'était un jeu et qu'il ne fallait pas le prendre au sérieux.
Si je peux t'interrompre,
dis.
La scène dont tu parlais de faire part, où le mec se promène dans la rue, rencontre les loupards et leur cible, tous ces noms, Roland m'avait dit à l'époque que ça lui était vraiment arrivé quand il se baladait dans les rues de Clamart une nuit.
Et il avait fait ça, il leur avait cité ces quatre trucs, il avait des couilles.
Et c'était comme ça qu'il s'en était dit,
Je ne savais pas. C'est bon à savoir. C'est encore mieux si c'est en vrai. Bon, peut-être deux mots maintenant sur finalement donc toute la musique qu'il y avait dans l'œuvre de Roland. Il y avait bien sûr un aspect, c'était parce que c'était sa vie. Et donc il utilisait ce qu'il connaissait pour pimenter ses écrits. Mais en même temps, c'est parce que c'est c'est parce que la musique est un médium très puissant. Ça emporte l'adhésion sans avoir besoin de passer beaucoup de temps à convaincre les gens. Ça exprime parfaitement les sentiments. Et un exemple de morceau qui, à mon avis, contient toute cette force et en même temps est une des autres références de Roland que Brenda Mage a repris aussi, c'est Cathy qui me l'a appris ou rappelé juste tout à l'heure, c'est Gloria. Gloria, le lecteur de Roland de Futurista de Paris connaît ce nom de l'AIA, de l'intelligence artificielle décorporée qui se manifeste au bon moment pour sauver le héros. Mais Gloria, ça a été une chanson interdite. C'est une chanson interdite parce que la version d'origine était par le groupe irlandais Them, avec Van Morrison, qui est devenu plus connu en solo par la suite, et qui avait dans les paroles, ça racontait l'arrivée d'une jeune fille qui s'appelait Gloria, et « She comes into my room », elle vient dans ma chambre. Mais évidemment, venir en anglais a un double sens sexuel beaucoup plus présent encore qu'en français. Et donc, She Made Me Feel Alright. Et ces paroles étaient inacceptables. La plupart des radios américaines ont interdit la version des Them. Et donc, les Shadows of Night, qui était un groupe de Chicago, disons de garage blues, qui était sorti sur le label Dunwich, amateur de Lovecraft, prenez note, en ont fait une version où ils ont modifié un peu les paroles. Et ils ont vendu énormément. Ça a été un des 45 tours les plus vendus de 1966 aux États-Unis. Ils ont vendu énormément de Gloria. Et cette version était la préférence de. La version préférée de Roland, vous la connaissez peut-être par Patti Smith, qui l'a reprise un peu plus tard.
Excellente.
Patti Smith avait une Kay, qui était un archiviste du rock. Et... Voilà, c'était Gloria telle qu'on se souvient à l'origine. Patti Smith l'a rendue beaucoup plus blasphématoire en mettant une introduction dans laquelle elle dit Jesus died for somebody's sin but not mine. Mais à l'origine, Gloria c'était ça. Et vous notez Gloria, donc que ce soit une intelligence artificielle, ne nous surprend plus du tout. Non, parce que je suis absolument sûr que quand Roland écrivait ce nom, c'est ce son-là qu'il avait en tête. D'accord. Moi aussi, enfin, je veux dire, Gloria, c'est ça. Et Bon, alors, quelle était la fonction de la musique dans l'œuvre de Roland? Il y avait cet aspect donc, d'excitation, cet aspect sexuel, cet aspect primitif, émotionnel. Il y avait aussi l'aspect hallucinatoire. Mais ça, je le considère comme moins important parce qu'en fait, si on ne comprend pas les paroles ou si on n'a pas tout un tas de références qui nous disent que ces sons-là qui font oui, 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 sont censés indiquer une distorsion de la réalité. Si on a l'habitude d'écouter du sitar plutôt que de la guitare électrique ou du piano, peut-être que ce n'est pas une distorsion de la réalité. En tout cas, c'est plus une référence de groupe, le fait que ces morceaux aient un côté passage dans un autre univers. Bon, bien sûr, passage dans un autre univers, c'était le pain quotidien de beaucoup des romans de Roland, hein, au début en tout cas. L'aspect le plus important, c'est que ce sont des références, donc ça se réfère à un groupe, hein. Donc la musique est un marqueur, la musique est un marqueur d'une communauté. Dans les futurs mystères de Paris, il fait ça de façon un peu caricaturale. Les gens appartiennent à des tribus, et la plupart des tribus qu'il définit se définissent par des genres musicaux. Bon, ça a une origine dans la réalité, simplement pas mal de mauvais genres musicaux, si vous voulez, étaient assez stigmatisés socialement. Hein. Et donc, encore aujourd'hui, si on écoute du rap vraiment gangster, en bonne société, c'est peut-être pas si bien vu que ça. Et donc, on est un peu forcé de se retrouver avec les amateurs du même truc, hein, dans son ghetto. Donc, c'est un côté tribal et c'est un côté aussi solidarité. C'est un côté solidarité et le rock, qui était une musique des classes plutôt, je ne sais pas s'il faut dire opprimées, mais en tout cas moins favorisées à la société, était un vecteur de révolte, était l'expression d'une révolte, disons, non organisée à ses débuts. Donc, c'était une pulsion sexuelle. Et puis, dans les années 60, il y a eu des gens pour théoriser ça et pour dire oui, mais ça doit même être quelque chose qui doit déclencher la révolte. Il y a eu John Sinclair, avec sa Sainte Trinité qui était dope, rock and roll and fucking in the streets. Bon, ça a été adouci, c'est devenu sex and drugs and rock and roll, man. Mais qui était la clé de la libération. Hein. Et c'est pas un hasard si dans le Serpent d'Angoisse et bien sûr dans la musique de l'énergie, on évoque une commune libre qui est celle de Detroit. Hein, c'est la commune libre de Detroit, parce que Detroit, c'est la musique, c'est ce genre de rock. Et la commune libre de Detroit, ben, c'est aussi bien la commune de Paris que celle d'Alger, hein, qu'on retrouve dans Rêve de gloire. Et donc la musique, c'est ce vecteur de révolution, finalement, à laquelle Roland croyait toujours d'une certaine manière, même si vous voyez les choses avec beaucoup de recul. Je crois que j'ai épuisé mon temps et que je vais m'arrêter là.